Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, les belligérants en Libye ont convenu à Genève de la nécessité d'un cessez-le-feu permanent et durable. C'est la journée mondiale contre le cancer, l'occasion pour l'Organisation mondiale de la santé d'appeler à renforcer les services de lutte contre cette maladie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. En République centrafricaine, l'envoyé de l'ONU s'est rendu à Paoua, dans le nord-ouest, pour observer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Et en dossier, un chef cuisinier sénégalais basé à New York raconte comment il a pu voir des communautés rurales du Sénégal et du Tchad s'adapter au changement climatique. Les deux parties au conflit en Libye sont réunies depuis hier à Genève au sein d'une commission mixte militaire sous l'égide de l'ONU. Elles ont convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu permanent et durable pour remplacer une trêve incertaine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le négociateur de l'ONU qui mène ses pourparlers, Ghassan Salamé, lors d'un point de presse. On l'écoute.
After the international conference that was held in Berlin, the mission has put together three tracks. One is an economic.
Après la conférence internationale qui s'est tenue à Berlin, la mission a mis en place trois volets. L'un d'eux est un volet économique. Le deuxième volet est un volet militaire et de sécurité, et il est maintenant généralement appelé le volet 5+5, car il est composé de 5 officiers, des officiers supérieurs nommés par le GNA à Tripoli, et 5 autres officiers de haut rang nommés par M. Haftar. Par conséquent, les deux parties sont venues à Genève et nous avons commencé hier à discuter avec elles d'une longue liste de points à notre ordre du jour, en commençant par une tentative de transformer la trêve en une trêve plus solide, moins souvent violée par l'une ou l'autre partie, mais aussi de transformer cette trêve en un véritable accord sur un cessez-le-feu durable. Je suis heureux d'annoncer que les deux parties ont commencé à travailler sur ce premier point de l'ordre du jour. Je suis heureux d'annoncer que nous ne laissons de côté aucune des questions qui sont nécessaires pour parvenir à cet accord sur un cessez-le-feu durable.
C'est la journée mondiale contre le cancer, l'occasion pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'appeler à renforcer les services de lutte contre cette maladie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, dans lesquels sont enregistrées les plus fortes augmentations de nouveaux cas, ainsi que les taux de survie les plus bas. Pascal Sim nous en dit plus.
Si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre de cas de cancer dans le monde augmentera de 60% au cours des deux prochaines décennies, prévient l'OMS. Une augmentation qui pourrait être de 81% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ces derniers ont dû concentrer leurs ressources sanitaires limitées sur la lutte contre les maladies infectieuses et l'amélioration de la santé maternelle et infantile, alors que leurs services de santé ne sont pas équipés pour prévenir, diagnostiquer et traiter les cancers. En 2019, plus de 90% des pays à revenus élevés ont indiqué que des services complets de traitement du cancer étaient disponibles dans leur système de santé publique, contre moins de 15% dans les pays à faible revenu. Il s'agit d'un signal d'alarme pour nous tous afin de lutter contre les inégalités inacceptables entre les services de lutte contre le cancer dans les pays riches et pauvres, a déclaré le docteur Renming Gui, sous-directeur général de l'OMS. Les progrès dans les pays pauvres sont pourtant réalisables, souligne l'agence onusienne. L'OMS rappelle que nombre de traitements établis se sont avérés efficaces dans la lutte contre le cancer, et cela sans causer de difficultés financières.
Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine, Manker Ndai, s'est rendu il y a quelques jours à Paoua, dans le nord-ouest du pays, pour observer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix et les défis à relever. Depuis janvier 2018, les forces de la MINUSCA mènent des opérations militaires conjointes avec l'armée centrafricaine dans la sous-préfecture de Paoua.
Nous avons beaucoup fait, nous avons beaucoup investi dans Paoua, la force en particulier. Au départ, ce n'était pas facile. Nous avons fait beaucoup de médiations, beaucoup de bons offices. Plusieurs missions sont rendues à Paoua, rencontrer Sidiki, discuter avec lui, essayer de faire en sorte que les 3R et les autres groupes restent dans le cadre de l'accord. Par la pression militaire, également, nous avons réussi également à obtenir des résultats. Parce que la force doit accompagner le processus politique. Aujourd'hui, c'est un calme dans l'ensemble, même si de temps en temps, il y a de petites frictions. Aujourd'hui, Sidiki s'est engagé dans le processus politique, il coopère, il s'est installé à Boire, il est dans le DDR, il y a ces éléments qui ont été fermés dans le cadre des USMS. Il faut consolider ce processus. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Les taxations illégales se poursuivent. Il y a toute cette bataille pour le contrôle des routes de la transhumance, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les vols de bétail. Mais nous avons espoir que ce processus va être consolidé et pour que également Paoua puisse être, je veux dire, la région de manière générale, une préfecture sécurisée.
Les recettes pour le changement est un projet du FIDA, le Fonds international de développement agricole, pour aider des petits agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Grâce à la participation de chefs cuisiniers du monde entier, ce projet examine les menaces qui affectent certains des ingrédients essentiels pour la subsistance de communautés rurales. Ainsi, Pierre Thiam, chef sénégalais basé à New York, a pu constater de première main comment des communautés du Sénégal et du Tchad s'adaptent au changement climatique. On l'écoute au micro de Florence Westgaard.
En tant que chef, personnellement, je me sens particulièrement plus impliqué en tant que chef sénégalais, chef africain, parce que le changement climatique est directement connecté à l'agriculture, aux méthodes d'agriculture que nous appliquons. Et une grosse partie des conséquences de cette agriculture, et c'est ce qu'on voit en ce moment, donc vous voyez les gaz à effet de serre, ben 30% c'est dû à l'agriculture, 30% c'est dû à l'élevage. Donc c'est cette connaissance qui m'a rendu beaucoup plus conscient de l'importance de m'impliquer. Et donc, vu que l'Afrique a 60% des terres arables du monde, c'est clair que l'agriculture du futur et la nourriture du futur viendra de l'Afrique. Donc, il faudra que l'Afrique fasse partie de cette conversation-là. Et si on ne le fait pas de façon consciente, on va juste laisser la place au même système qui nous a amenés dans cette situation désastreuse.
Oui, justement, donc vous vous êtes rendu dans les communautés. Je pense que vous êtes allé, bien sûr, au Sénégal, mais aussi au Tchad. Donc, qu'est-ce que vous avez pu observer de première main? Qu'est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous donner?
Ben oui, au Sénégal, ce qui était intéressant, parce que c'est d'abord le pays d'où je viens, j'ai pu observer que les rythmes des pluies n'étaient plus les mêmes que ce qui existait. Donc, ça avait affecté carrément les saisons et les produits d'agriculture. Donc, ce qui m'avait fasciné, c'est que j'ai visité une communauté qui se trouve pas loin de Kaolack. Et cette zone de Kaolack, c'était une zone qui était plutôt connue pour l'agriculture de l'arachide. Et j'étais fasciné par le fait que ces paysans avaient pu se reconvertir en cultivateurs de riz. Ce n'était pas une zone connue pour ça. Ils avaient pu s'adapter au changement climatique, et au changement des rythmes de pluie. Et donc, c'était vraiment quelque chose que je ne pensais pas jamais voir au Sénégal. Quoi. Au Sénégal, en général, le riz, c'était traditionnellement dans le sud du Sénégal parce que, bon, voilà, il y a des pluies. Et dans le nord du Sénégal parce qu'il y a le fleuve Sénégal. Quoi. Donc, voir des fermiers pouvoir s'adapter, il y avait vraiment une culture vibrante quoi, de produits qui, il y a quelques années, quand je grandissais au Sénégal, c'était pas dans cette région, c'était plutôt l'arachide qui avait un effet plutôt néfaste sur le sol, qui appauvrissait le sol. Et donc maintenant, les paysans étaient de plus en plus conscients d'une agriculture qui était plus, je dirais, régénérative. Et c'était pareil, au Tchad, c'était plutôt que le riz, c'était la sésame qui était le produit du Sénégal. Le Tchad, c'était toujours des femmes qui étaient à l'avant de ce combat pour le changement climatique. Donc ce qui était intéressant, c'est que cette sésame-là, c'était un produit qui existait traditionnellement, mais ils ont su l'utiliser parce que c'est une graine qui est résiliente, qui n'avait pas besoin de beaucoup d'eau, donc qui s'adaptait, qui avait une saison de croissance pas très longue. Donc c'était vraiment une graine qui est idéale pour cette communauté. Et donc j'ai pu partager quelques moments avec eux. C'était vraiment une éducation pour moi.
Et justement, comment, selon vous, vous personnellement, mais aussi la communauté internationale, peuvent aider ces communautés à être plus résilientes? Est-ce qu'on a une part aussi à donner pour les aider?
Oh, absolument. Maintenant, nous en sommes à ce point que toute action qu'on fait, quelle que soit la distance de l'autre côté du globe, ça a des conséquences dans les zones les plus reculées du monde. Et donc, si nous ne sommes pas conscients de la façon dont on se nourrit, on affecte ces communautés-là. Donc, les supporter de différentes façons. Déjà, individuellement, je crois que chaque personne devrait, chaque jour, en faisant son choix de nourriture, être conscient des conséquences que ça a. Donc, en tant que chef, comment je peux faire supporter ces communautés? Je le fais en créant une compagnie que j'appelle Yolele Food. Et l'objectif de Yolele Food, c'est de trouver des marchés pour les produits de ces communautés-là. Parce que certains de ces produits tendent à disparaître. Ce qui se passe beaucoup pour le cas du Sénégal, par exemple. Quand je grandissais, il y avait des produits que je voyais assez souvent et qui sont impossibles de trouver maintenant dans le marché. Donc, ce que le consommateur peut faire, c'est être conscient dans son choix de produits, dans son choix d'alimentation, et se tourner vers ces produits-là. Des produits tels le fonio, tels le teff, tels le sorgho, sont des produits qui, non seulement en les consommant, sont excellents pour notre propre santé, mais c'est aussi, on supporte des économies rurales dans les zones les plus pauvres du monde. Donc, c'est juste par une action consciente comme ça, on peut soutenir ces communautés.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, retrouvez sur notre page Internet, nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.